C'est la mesure choc annoncée mardi dernier à l'issue d'un conseil de défense écologique par la ministre des Transports Elisabeth Borne. Une éco-taxe sur tous les billets d'avion au départ de France, sauf bien sûr pour les vols vers la Corse et l'Outre-mer et pour les correspondances. 1,50€ en classe éco pour les vols internes à l'Union européenne, 9€ en classe affaires, le double pour les vols extra-européens. Le transport routier est également mis à contribution. Le remboursement partiel dont il bénéficie sur le gazole sera réduit de 2 centimes par litre. 180 millions d'euros d'un côté, 140 de l'autre, des recettes qui viendront financer, selon le gouvernement, des infrastructures ferroviaires et routières. Pour les associations de défense de l'environnement qu'il est demandé depuis longtemps, ces annonces, quoique très insuffisantes, vont dans le bon sens. Pour les professionnels concernés, il en va bien sûr tout autrement. Pour les compagnies aériennes comme pour les sociétés de transport routier, ce serait même un non-sens économique et environnemental. Ce dont on va débattre dans le téléphone sonne avec nos invités. Thomas Join, président de l'Union des aéroports français, bonsoir.
Bonsoir.
J'ai bien résumé votre point de vue ?
Oui, on peut dire ça.
Point de vue sensiblement identique pour les transporteurs routiers dont un représentant sera en ligne avec nous dans un instant. Avec nous également Christian Gaulier, économiste, directeur général de l'École d'économie de Toulouse, auteur de Le climat après la fin du mois, paru aux éditions PUF depuis mai 2019. Pour vous, hein, une taxe est efficace pour limiter les émissions de CO2.
Exactement.
Et un représentant donc, des transports routiers sera avec nous tout à l'heure, je viens de le dire. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur la page mail de l'émission jusqu'à 20h.
Yves Decamp. Le téléphone sonne.
Et tout de suite, à un premier auditeur, c'est Patrice qui nous appelle de la Meuse. Bonsoir Patrice.
Oui, bonsoir à tous.
Nous vous écoutons.
Eh bien voilà, juste avant de poser ma question, permettez-moi de corriger une petite erreur qui s'est glissée lors d'une émission précédente concernant le tourisme, qui concerne justement l'environnement. Le festival des burlesques aura lieu le 9, 10 et 11 août prochain, et non pas au mois de juin comme ça avait été annoncé.
Donc, voilà, ça c'est dit.
Voilà.
Il est où ce festival ?
Il est bien, il est dans le sud meusien. D'accord. Et ça concerne justement une problématique environnementale, les déchets nucléaires. Voilà.
Parfait, très bien.
Alors, ma question, voilà, en regard de la problématique climatique, je me demande, moi, si le montant des taxes proposées n'est pas dérisoire, voire ridicule. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas limiter modérément les déplacements des personnes, s'attaquer enfin au transport des marchandises, bien trop souvent superflues, ces marchandises, tout en rappelant que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un problème systémique qui interpelle sur notre choix de société, où tout est fait pour que nous consommions de plus en plus, même le superflu. Donc je pense qu'il nous appartient d'être modérés dans nos achats et nos déplacements. Et puis c'est aussi une problématique qui fait dire tout et n'importe quoi. Et par exemple, lorsqu'on entend dire que le train ne pollue pas, ben moi ça me fait bondir, ça me fait rager, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'électricité française marche au nucléaire qui produit des déchets, comme je vous le disais tout à l'heure.
Oui, alors si on ne prend plus l'avion et si on ne peut plus prendre le train non plus,
c'est une question de modération.
D'accord. Thomas Join, donc je rappelle, hein, vous êtes le président de l'Union des aéroports français, donc taxe trop modérée. Vous la contestez, pour Jackie, elle est beaucoup trop faible. C'est aussi ce que disent beaucoup d'associations écologistes.
Hein. Oui, enfin, je pense qu'il faut déjà noter que l'aérien répond à un besoin de mobilité des Français, puisque le transport aérien progresse depuis quelques années de façon conséquente. Et c'est aussi l'ouverture des territoires, surtout en France, qui en bénéficie. Nous avons un système à la française qui est quand même très centralisé. Les TGV sont en effet, comme on dit, en réseau, en étoile. Et là, l'aérien apporte, depuis quelques années, avec des tarifs tout à fait abordables, apporte un rééquilibre, hein, finalement, des territoires. Et donc, ce qu'il faut regarder dans ce transport aérien, c'est avant tout un transport qui ouvre des économies, qui permettent aux personnes aussi de se déplacer, de visiter les familles, les amis. Le lien social, je rappelle, représente de plus de 20% maintenant des passagers, le tourisme, donc c'est tout un élan qui a lieu. Alors après, on peut se dire en effet
1,50€ sur un billet, c'est pas grand-chose.
Alors on peut, c'est vrai que quand on regarde ça, on dit mais de quoi parle-t-on ? Alors nous sommes dans un secteur très complexe et qui est très méconnu. Il faut savoir que les compagnies aériennes qui développent des liaisons comme ça au départ de la France ont des marges extrêmement réduites. Si on prend sur du court courrier, alors domestique et puis Europe, on est sur des marges qui sont autour de 5, 6, 7 euros par siège, hein, si on regarde les compagnies low cost. Donc autant vous dire que lorsqu'il y a des taxes qui se rajoutent, puisque c'est pas la seule taxe, on est pratiquement sur des montants de 25 à 30 euros de taxes déjà, si on comprend également les redevances en France.
Les taxes, c'est à peu près la moitié du prix du billet.
Alors c'est toujours délicat parce que ça dépend du prix du billet. Sur un billet de 100 euros, vous avez à peu près 30 euros de taxes et puis une vingtaine d'euros de redevances. Donc, en effet, c'est 50% du prix. Donc, la marge, ensuite, vous avez le prix du carburant. Donc, la marge pour la compagnie, je vous dis, c'est 5-6 euros. Donc, quand vous ajoutez une taxe qui est de 1,50 euros, rapportée à cette marge, ça a des conséquences qui ne sont pas indolores.
Elle est beaucoup plus élevée dans beaucoup d'autres pays, hein, vous le savez.
Alors, ce qu'il faut regarder, faut toujours comparer par...
6 pays d'Europe.
Oui, il faut tout... Alors, c'est vrai que la taxation sur le kérosène, par exemple, nous n'étions pas forcément hostiles, dès lors qu'elle peut s'appréhender dans un cadre européen. Ce qui pose problème ici, sur cette mesure, et qui est vraiment à rebours de toutes les discussions qui ont lieu sur les assises l'année dernière de l'aérien, c'est une taxe franco-française qui se rajoute à une surtaxation très importante. Donc quand vous dites c'est plus élevé dans d'autres pays européens, si je prends la Suède et les Pays-Bas, si vous faites le cumul de toute la taxation, ils sont sur une taxation bien moins élevée qu'en France. Donc en effet, si on prend cette taxe de façon isolée, on va toujours faire des comparaisons au désavantage de la France. Mais ce qu'il faut regarder, c'est la taxation spécifique du secteur. Et en France, nous sommes sur une taxation extrêmement lourde, puisque je rappelle que le transport aérien finance pratiquement tous les coûts qui sont liés au transport aérien, alors pour l'essentiel, et en plus finance les missions régaliennes, qui sont des missions de police, finance une taxe solidarité qui est pour destinée donc à la santé dans les pays en voie de développement. Et donc en plus de cela, on va rajouter en effet une taxe franco-française qui, si vous regardez tout cela, met au contraire la France dans le peloton de tête des pays les plus taxés.
Alors Philippe Parmel est d'accord avec vous, hein, il pense que taxer les transports intérieurs, c'est pénaliser les provinciaux, en sachant qu'ils doivent utiliser, dit-il, souvent deux voyages intérieurs, mais rappelons que les correspondances ne sont pas taxées, hein, ne sont pas soumises à cette taxe sur les billets. Les taxes sur les billets d'avion sont-elles pas déjà suffisamment élevées comme ça, demande Philippe. Christian Gaulier, ce n'est pas votre avis évidemment, vous êtes pour les taxes.
Ben oui, parce qu'en fait, deux sujets. Le premier sujet, principe pollueur-payeur. Et le deuxième sujet, la France s'est engagée à décarboner totalement son économie d'ici les 30 prochaines années. Et d'une façon ou d'une autre, pour y arriver, il faudra que tout le monde s'y mette. Pour ce premier sujet, principe pollueur-payeur, rappelons qu'un aller-retour Toulouse-Paris, par exemple, émet 300 kilos de CO2 sur ce trajet. Je vous rappelle que les utilisateurs du véhicule, de voiture, paye déjà une taxe de 44 euros la tonne de CO2. Donc si on mettait au même niveau de taxe les usagers de l'avion et les usagers de la voiture, on serait à 44 euros la tonne de CO2 rapportée à 300 kilos, ça ferait autour de 14-15 euros le voyage aller-retour sur Toulouse-Paris. 1,50 euros comme écotaxe, c'est effectivement dérisoire.
Oui, moi je suis pas contre l'écotaxe en soi, mais c'est encore une fois taxation, parce que quand on compare aux véhicules, il faudrait également intégrer toute la taxation spécifique du secteur. C'est un secteur qui paye son administration.
Les véhicules sont aussi pas mal taxés.
C'est un secteur qui paye son administration, on le sait pas. La Direction Générale de l'Aviation Civile est financée, non pas par le contribuable, comme les autres administrations, mais par le secteur. Le passager aujourd'hui paye pratiquement la totalité des coûts du secteur, en plus s'acquitte d'une taxe solidarité, je le répète, pour la santé dans les pays en voie de développement, finance la sûreté et donc la police, ou en Espagne, par exemple, c'est la puissance publique. Donc, j'ai envie de dire, il faut considérer toute la taxation. Et puis, quand on dit en effet que le secteur est pollueur, je rappelle quand même par rapport à tout ce qui se dit en ce moment, il faut raison garder, le secteur c'est 2%. Alors attendez, 2%.
C'est l'une des sources principales d'émissions des gaz à effet de serre.
Non, c'est 2% des émissions dans le monde des activités humaines.
Mais
c'est
ça, pas justement. Ça peu importe.
Non, attendez. je souhaite quand même continuer. Quand on dit c'est une source principale, c'est révélateur. Oui. Il y a une méconnaissance. Aujourd'hui, le secteur émet 2% des effets de l'émission de CO2 dans le monde. Donc 2%, oui, c'est pas 20%, mais c'est 2%. En France, c'est 1,4%. Donc le secteur doit prendre sa part. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Mais ce que l'on conteste surtout, c'est que cette nouvelle taxe qui va être appliquée n'améliorera pas la situation. C'est ça le plus terrible dans cette histoire. N'améliorera pas. Pourquoi ? Puisque l'objectif, c'est justement d'assurer la transition écologique du secteur, puisque c'est un secteur qui est considéré comme utile, et cette taxation va aller financer d'autres modes de transport. Donc c'est ça qu'on a du mal
à accepter. Infrastructures routières ou le ferroviaire. Christian Gaulier ?
Non, moi je voudrais dire que c'est pas parce que je ne représente qu'un milliardième des émissions de CO2 sur la planète que je ne dois pas faire un effort moi-même. La problématique du poids de chaque secteur sur les émissions de CO2 n'est pas un élément important pour déterminer ce que chacun doit faire. Ce qui est important, c'est de réaliser que nous sommes des pollueurs, que nous générons des dommages pour autrui et que nous devons essayer de faire en sorte que chacun internalise ses coûts dans leurs décisions. La meilleure façon de le faire, c'est de mettre une taxe ou une écotaxe au niveau du dommage que vous imposez aux autres.
Et en réponse à ce que vient de dire Thomas Join, vous avez une jolie phrase dans une interview que j'ai lue. Ce n'est pas l'utilisation de la recette de la taxe qui en définit le caractère écologique, mais son existence elle-même.
Exactement, c'est un problème d'incitation.
Chantal nous appelle de Bourg-en-Bresse, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Nous vous écoutons. Bonsoir, Chantal.
C'est au sujet des taxes sur les avions. Il serait, à mon avis, plus efficace de taxer de façon inversement proportionnelle les déplacements en avion. Pour les vols courts, domestiques, par exemple, eh bien que la taxe soit au maximum parce qu'on a la possibilité de prendre un autre moyen de transport, TGV, etc. Alors que sur les longs courriers, il n'y a pas d'autre moyen d'y aller que par l'avion.
Voilà, c'est le contraire de ce qui va se faire, Thomas Join.
Oui, enfin, j'ai envie de dire.
L'idée est assez logique.
Une ligne qui est pas utile est une ligne qui ferme. Je crois qu'on a cité des exemples aujourd'hui en France où il faudrait supprimer telle ou telle ligne. Je vous rappelle que les lignes qui sont à moins de 2 heures de Paris, des villes qui sont à moins de 2 heures de Paris, il n'y a pas de concurrence avec le TGV. L'essentiel du trafic, c'est de la correspondance. Donc aujourd'hui, les liaisons aériennes qui sont utilisées sont soit des liaisons utiles, au contraire, pour les territoires qui sont desservis, soit c'est de la continuation sur l'international. Donc de taxer, en effet, il y a une taxation à 1,50 €, on fait une différence. Mais je pense que surtout, ce qui est important, c'est de considérer que l'obsession d'une compagnie aérienne, c'est de réduire sa consommation du carburant. C'est pratiquement son premier poste de coût. C'est plus d'un quart de ses charges. Donc croire un seul instant qu'une taxation va dissuader la compagnie aérienne de consommer, c'est pas connaître le secteur. Aujourd'hui, les avions qui sont justement construits chez Airbus, parce que les compagnies aériennes leur demandent, vont vers une réduction drastique de la consommation. Les nouveaux Airbus A320neo, l'A321neo, c'est pratiquement 30% de consommation en moins.
Donc on ferait mieux d'aider les compagnies à investir dans de nouvelles technologies, des avions moins gourmands, etc.
Il faut accroître et accélérer.
Mais l'un n'empêche pas l'autre.
Il faut accroître et accélérer, en effet, la recherche pour non pas arriver vers une évolution, c'est ce qu'on est en train de faire, mais vers une rupture technologique. Parce que je rappelle quand même que le secteur s'est engagé pour 2050 à aller vers pratiquement une émission zéro des avions. Bon. Et donc je pense qu'au contraire, on doit accentuer les fonds et les recettes du secteur pour assurer cette transition écologique.
Christian Gaulier.
In fine, ce sont les consommateurs qui paieront cette augmentation des taxes sur le transport aérien. Et à nouveau, le point, c'est quand vous augmentez le prix de quelque chose, la demande pour ce quelque chose diminue. On voit bien, par exemple, si vous comparez les États-Unis à la France en termes de transport automobile, vous voyez bien combien le fait qu'aux États-Unis, l'essence soit 2 fois moins chère qu'en Europe implique que les voitures sont beaucoup plus grosses, que les gens parcourent beaucoup plus de kilomètres. Ici, en France, on ne réalise pas suffisamment combien jouer sur le prix d'un bien influence de façon très conséquente sur le long terme la manière dont nous comportons, la manière dont nous consommons.
Eh bien, vous répondez à l'avance, je crois, à Pascal qui nous appelle du Mans. Bonsoir, Pascal.
Bonsoir.
Allez-y.
Ma question était la suivante. Moi, je voulais savoir pourquoi, dès qu'il y a des décisions qui vont dans le sens, soi-disant, de l'écologie, parce que le gouvernement nous montre quand même au quotidien que l'écologie, ils s'en fichent comme de leur première chemise, pourquoi ces décisions vont toujours dans le sens où on taxe l'utilisateur et le consommateur, que ce soit dans l'agroalimentaire, le transport, etc., plutôt que les compagnies. Et en plus, j'aimerais savoir, j'ai entendu dire que les compagnies aériennes et les compagnies maritimes ne payent pas de TVA sur les carburants. Alors, est-ce que ça pourrait pas être une solution non plus pour donner un peu d'argent pour faire du bien à l'écologie.
Alors on va en venir, parce que cette question-là nous est posée également par Marie-Christine, par le mail, sur le mail de l'émission. Hein. Qu'en est-il des taxes en mer? Il y a un développement exponentiel des croisiéristes, alors pourquoi ne pas les taxer également? Mais d'abord, Christian Gaulier, sur le point de vue de Pascal à l'instant, pourquoi ne pas taxer les compagnies plutôt que les usagers?
Oui, vous savez, à la fin du fin, quand vous augmentez les coûts de production, il n'y a pas de caverne d'Ali Baba quelque part que les entreprises peuvent utiliser pour compenser l'augmentation de ces coûts. In fine, ça transparaît dans les prix des biens et services achetés par les consommateurs. Donc, in fine, ce sont toujours les consommateurs qui dépensent, qui payent pour l'environnement. Et c'est tout à fait normal parce que l'objectif final, c'est de modifier les comportements de consommation.
Et sur les croisières en mer? Vous avez des éléments
alors,
de réponse
là, je voudrais
sur les
quand croisiéristes. Ce qui me gêne dans tout ce sujet, c'est que finalement, il y a énormément de différenciation et de traitement différencié des incitations à réduire les émissions de CO2. Les gilets jaunes l'ont bien vu cet hiver. Eux payent 44 euros la tonne de CO2, alors que les transports aériens, les transports maritimes, les transports terrestres de biens payent des taxes beaucoup plus faibles. Et la conséquence de ça, c'est que, in fine, il y a une perte d'acceptabilité de l'impôt parce qu'il est considéré comme inefficace, parce qu'il exempte trop d'individus. Le problème, c'est que quand vous émettez une molécule de CO2, cette molécule, elle aura les mêmes propriétés en termes de réchauffement climatique que vous soyez une compagnie aérienne, que vous soyez une compagnie de transport de camions, que vous soyez un simple usager de la route. Et in fine, il faut que cette molécule qui pollue, chacun d'entre nous, on intègre les conséquences en termes de dommages. Et ça, c'est une taxe uniforme et universelle sur le CO2.
Thomas Join, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, puisque ça ne se passe pas comme ça. Dans le secteur, lorsqu'une compagnie aérienne ouvre une ligne, elle calcule ce qu'on appelle les coûts de toucher. Et elle compare par pays. Donc, par rapport à ce que dit monsieur, moi je m'inscris en faux. Ce qui va se passer, encore une fois, c'est qu'une taxation franco-française va conduire les compagnies aériennes à faire des comparaisons. Si vous prenez l'exemple de l'Espagne, où il y a pratiquement pas de taxation sur la sûreté et la sécurité, il y a déjà pratiquement 7 à 10 euros d'écart, cette taxe n'existera pas, eh bien, sans que ce soit spectaculaire, les compagnies aériennes font leurs calculs, ramènent ça en effet au coût par passager et créeront plus de lignes en Espagne plutôt qu'en France. Donc je dis que ces éléments de taxe, moi je vous rejoins, ça peut avoir un effet dès lors qu'on les considère à l'échelle européenne. Nous sommes dans un monde, le transport aérien, très ouvert, très concurrentiel, c'est le visage positif de l'Europe, finalement, puisque la libéralisation européenne, en effet, a permis au transport aérien de se développer, et le transport aérien a contribué à la construction de l'Europe. Mais il manque finalement une pierre à l'édifice, c'est un socle fiscal homogène. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est d'aggraver la situation de l'industrie française. Le pavillon français va être extrêmement désavantagé par rapport à cette fiscalité, alors qu'il y aurait une efficacité en effet, et là je vous rejoins, si on abordait ces questions d'un point de vue européen. Et je peux vous dire que certaines compagnies aériennes d'autres pays voisins sont en train de se frotter les mains par rapport au pavillon français. Et je crois que c'est une très mauvaise décision, et encore une fois, qui n'aura aucun impact sur l'écologie en France.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Aviation et transport routier plein gaz sur les taxes. Nous parlons ce soir de la mesure annoncée un mardi dernier à l'issue du Conseil de défense écologique, taxe sur les billets d'avion notamment, mais aussi un remboursement moins important du gazole. Vous venez de dire, Thomas Join, vous représentez les aéroports français, vous venez de dire qu'on allait mettre en péril l'industrie française. C'est aussi ce que disent les transporteurs routiers. Laurent Gall est en ligne avec nous, membre du conseil d'administration de l'OTRE, l'Organisation des transports routiers européens. Bonjour Laurent Gall.
Bonjour monsieur.
Donc vous tenez à peu près le même discours que les représentants du secteur aérien, hein, ce déremboursement en partie du gazole va mettre en péril les camionneurs français.
Ah ben ce qui est sûr, c'est que on nous parle d'une taxe écologique, c'est pas du tout une taxe écologique. C'est juste une taxe supplémentaire qu'on vient chercher sur un transport qui déjà paye beaucoup de taxes. Aujourd'hui, le transport routier paye beaucoup plus que ce qu'il rapporte à l'État, beaucoup plus que ce qu'il coûte. Et voilà, c'est pas, il n'y a pas de raison de rajouter cette taxe supplémentaire.
Mais les automobilistes, les particuliers paient le gazole à son prix. Pourquoi pas vous ?
C'est un problème de comparaison avec les autres pavillons européens. Si vous avez un transporteur polonais qui vient faire son plein, par exemple, au Luxembourg, et puis ensuite vient travailler en France, il aura payé un gasoil beaucoup moins cher que, qu'en France. Donc en fait, le sujet, c'est que quand on augmente le gasoil des transporteurs, on les met dans une concurrence déloyale avec les Européens.
Mais le gouvernement vous promet de vous aider en contrepartie à vous doter d'engins, de par exemple pour le BTP, d'engins de chantier électriques, ou vous d'améliorer votre flotte. Vous n'y croyez pas ?
Non, on n'y croit pas. Et ce qu'on voit surtout, c'est la liste des taxes supplémentaires qu'ils ont rajoutées, parce que on parle de quelques centimes d'euros sur le gasoil, mais il y a également le fait que le GNR ne disparaisse, il y a également les allègements Fillon, il y a également la fiscalité des entrepôts, la DFS, etc. Alors tout ça, c'est des termes très techniques, mais en fait, les taxes supplémentaires qui ont été rajoutées la semaine dernière sur les transporteurs, c'est de l'ordre d'un milliard d'euros par an.
Donc vous, ce que vous demandez, vous, les organisations de transport, c'est qu'on fixe un prix européen du carburant, auquel cas vous seriez d'accord pour payer une vignette écolo.
Ah ben, si on parle du sujet écologique, on est prêt à faire plein de choses, à discuter plein de choses. On fait déjà beaucoup de choses, mais on pourra en faire beaucoup plus. Mais sur le gasoil, il faut absolument qu'on soit sur quelque chose d'européen. Sinon, on a une distorsion de concurrence qui est impossible.
Vous allez vous mobiliser à la rentrée ?
Il y a des chances. Il y a plusieurs choses qui énervent les transporteurs. La première chose, c'est cette succession de taxes supplémentaires qui ont été ajoutées. La deuxième, c'est que ça arrive comme par hasard, deuxième partie du mois de juillet. On connaît la technique. Ils nous avaient déjà fait le coup il y a 3 ans. Donc voilà, pour l'instant, on consulte en interne, voir ce qui se passe. Mais il y a des chances, oui.
Laurent Gall de l'Organisation des Transports Routiers Européens. Merci de nous avoir appelé pendant ce téléphone sonne. Christian Gaulier, une réaction. Je rappelle que vous êtes économiste, directeur général de l'économie de Toulouse, de l'école d'économie de Toulouse.
Oui, en fait, c'est pas une augmentation de la taxe, c'est une baisse de la réduction de la taxe dont bénéficient les transporteurs routiers. C'est à nouveau le même sujet. Pourquoi est-ce que les consommateurs qui utilisent leur véhicule devraient payer une taxe plus importante que les transporteurs par camion.
Mais la distorsion de concurrence, elle est réelle ou ?
Oui,
c'est un fantasme.
J'en conviens. Maintenant, on est dans une course de lenteur au niveau mondial. Chacun attend que l'autre fasse quelque chose et finalement, personne ne fait rien. Et donc, je pense que de façon temporaire, que la France fasse un acte supplémentaire positif envers le climat me semble une chose utile et j'imagine que les autres pays européens suivront. Après tout, quand même, les camionneurs français sont pas si maltraités que ça. Quand même, cette réduction de 17 centimes le litre de gasoil dont ils bénéficient est un avantage important. Hein. La niche fiscale correspondante, c'est quand même 7,5 milliards par an. C'est un avantage qui n'est pas négligeable et qui est très mal passé. Enfin, au même moment où la société cherche à valoriser les circuits courts, la consommation locale, donner une subvention aux transporteurs longue distance, c'est quand même assez incohérent, quand même, comme politique économique.
01 45 24 7000, Julien nous appelle du Jura. Bonsoir Julien, nous vous écoutons.
Oui, bonsoir. J'aimerais donc aborder la question de l'interdiction des lignes intérieures. Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on continuera à financer des lignes intérieures sur lesquelles il y a déjà du TGV, qu'on paye, hein, qu'on finance déjà, et pour lesquelles, au final, de porte à porte, avec l'avion, on gagne pas énormément de temps. Et que c'est effectivement, donc, pour moi, un moyen de transport qui est réservé à une élite. Et ensuite, j'aimerais aussi poser une petite remarque concernant les Français. J'aimerais qu'on précise de quel Français on parle. Parce que effectivement, il y a un trafic qui augmente, mais c'est pas une demande des Français. C'est une minorité. Il y a une généralité qui est fait comme si tout le monde voulait ça. Je suis pas certain que ce soit tous les Français d'une qui aient les moyens et qu'on précise effectivement de quel Français parle-t-on quand on parle des Français.
Si le trafic augmente, c'est que de plus en plus de Français sont concernés, Julien.
Une partie des Français, à mon avis.
Le trafic aérien s'est démocratisé quand même, malgré tout, ces dernières années. de plus en plus de jeunes, notamment, utilisent les low cost.
Oui, ça pose la question des low cost, effectivement, et du prix du billet par rapport au TGV.
Thomas Join, alors on se souvient qu'un certain nombre de députés avaient proposé effectivement qu'on supprime les lignes intérieures sur les liaisons qui peuvent être faites en TGV, en moins de 2h30 de TGV, par exemple.
Oui, alors... Par rapport à ce que disait l'auditeur, et c'est, le secteur est mal connu, ça ne coûte rien aux contribuables. Quand on dit pourquoi payer des lignes, non, les lignes aériennes ne coûtent rien, hormis les lignes de service public, mais ça c'est dans le cadre de l'aménagement du territoire, mais des lignes aériennes ne coûtent rien, contrairement au transport ferré. Ensuite, comme je l'indiquais, la plupart des lignes qui relient des villes, qui sont à moins de 3 heures de Paris, de toute façon baissent en trafic et ensuite ferment si elles sont inutiles. Il y a eu des lignes qui ont réouvertes, par exemple entre Nantes et Orly, Lyon, Orly, Paris, on se dit mais comment se fait-il que ça réouvre sans subvention? Tout simplement parce qu'il y a une demande de relier les aéroports parisiens pour pouvoir correspondre ensuite sur l'international. Donc il faut être très nuancé et il n'y a pas globalement de concurrence, contrairement à ce qu'on dit, c'est marginal, entre le train et l'avion aujourd'hui en France. La grande chance, au contraire, de la démocratisation du transport aérien, c'est de permettre à un mode de transport d'être complémentaire au train. Vous avez sur les TGV sont réservés sur des lignes où il y a 10 à 20 millions de voyageurs. Je rappelle que le TGV, pour qu'il puisse être rentable ou en tout cas se justifier, on est sur des transports avec des masses de population. Tout l'intérêt de l'avion, c'est justement d'apporter une réponse sur des territoires qui sont plus enclavés, où il y a moins de population. Mais donc au contraire, il faut s'en réjouir.
Qu'apporte un Paris-Lyon en avion, par exemple?
Eh bien, un Paris-Lyon, c'est la quasi-totalité du Paris-Lyon, c'est de la correspondance, de la continuation sur des lignes éventuellement en correspondance en national, pour l'essentiel Europe et également monde, pour ceux qui sont reliés à Roissy. Il n'y a pas de justification en effet, alors que quelques personnes continuent à le prendre. Mais je peux vous dire que si c'était du point à point, c'est-à-dire de ville à ville, la ligne aurait fermé il y a longtemps. Après, ce que disait la personne est révélateur de la méconnaissance du secteur. Aujourd'hui, les personnes qui prennent l'avion en France, globalement, c'est le profil d'une personne qui prend le TGV. Enfin, c'est véritablement. Mais c'est le même profil, c'est-à-dire que vous avez sur du court courrier des tarifs qui sont à peu près équivalents. On voit que les jeunes sont très pragmatiques, ils font leur choix en fonction, en effet, du transport le plus rapide et le moins cher. Et donc, il y a des années, je me souviens, on faisait le reproche au transport aérien d'être réservé aux riches avec un transport très cher. Depuis 40 ans. Le tarif en moyen de l'aviation a baissé de 60%. Donc on arrive aujourd'hui à un transport qui est accessible à tous. Et aujourd'hui, on vient en effet parfois critiquer ce transport en disant « mais il n'est pas assez cher par rapport au train ». Je pense que le transport aérien a bon dos. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'en effet, il s'est ouvert à un large public pour le tourisme en France, et c'est important, pour les familles et puis pour les hommes d'affaires.
Christian Gollier.
Oui, moi je trouve la question très intéressante parce qu'elle met en exergue un point de vue assez prégnant en France, qui est de dire en fait le changement climatique, il faut, pour résoudre le problème, il faut intervenir, il faut obliger les gens à faire ceci ou cela. Nous les économistes, on a une position beaucoup plus ouverte, beaucoup plus digne de du sens des responsabilités, de la liberté des gens, en leur disant vous voulez polluer, vous voulez imposer des dommages à autrui en émettant du CO2, soit parce que vous prenez l'avion, soit parce que vous prenez la voiture, mais vous allez payer et après vous faites de l'arbitrage. Peut-être que cette année vous allez rester en vous allez passer vos vacances à la maison parce que le tarif aérien est trop cher. Dans quelle société voulons-nous vivre? Est-ce que nous voulons vivre dans une société de liberté où les gens font les bons arbitrages dans l'intérêt général, bien compris aligné avec leur intérêt privé, ou voulons-nous organiser une société plus contraignante où certaines personnes s'arrogeraient le droit de dire ce qu'on a le droit de faire, le droit de ne pas consommer? Moi, je préfère avoir une société où on impose un prix des externalités, des pollutions, et on oblige les gens à les intégrer dans leurs décisions que de leur interdire de faire ceci ou de faire cela, parce que après où est-ce qu'on s'arrête? Est-ce que après on va dire aux gens interdiction de prendre votre voiture pour vous rendre sur votre lieu de travail si vous avez une possibilité de prendre le train?
Alors Julien nous disait aussi de quel français on parle. C'est aussi ce que souligne Antoine sur l'application France Inter. Est-on certain, dit-il, que le transport aérien répond à un besoin des Français? Ne s'agit-il pas plutôt de leurs envies? Car quels sont vraiment les besoins de déplacement nécessaires? Thomas Join, vous levez les bras au ciel.
Écoutez, c'est la question de la mobilité. Je pense que, en effet, au contraire, le transport aérien a ouvert aux jeunes, d'ailleurs, et aux moins jeunes, des possibilités d'échange, des possibilités aussi pour les universités. Enfin, il y a vraiment de multiples facettes qui permettent d'ouvrir. Je pense que, véritablement, je rappelle encore une fois que c'est un secteur, en effet, qui contribue à la pollution. Je rappelle encore une fois que c'est 2%. Moi, quand on m'a donné ce chiffre au départ, quand je suis arrivé dans le secteur, j'ai fait répéter, j'ai dit non, 20%, non, 2% des contributions. Donc je pense qu'il faut en effet tenir compte de la pollution, mais il ne faut pas cibler ce secteur plus qu'un autre, c'est ça que je veux dire. Tout le monde doit prendre sa part. Ensuite, en termes de mobilité, je pense que le vrai défi pour demain, c'est au contraire que la France ne mette pas une taxation franco-française pour aller pénaliser son industrie, pour aller pénaliser ses territoires, mais s'active au niveau européen pour progresser en effet sur une fiscalité européenne qui soit écologique. Ça, on est tout à fait d'accord. Et là, on a indiqué en effet notre appui à ce sujet. Et je pense que ce qui est urgent en effet, c'est qu'on prenne acte du fait que la mobilité aérienne est un fait aujourd'hui dans nos sociétés aujourd'hui et qu'il faut que ce secteur arrive au contraire à accroître sa transition écologique. Donc je pense qu'il faut être positif et au contraire ne pas aller prendre des recettes qui vont fragiliser ce secteur et qui vont peut-être freiner justement sa transition écologique. Je rappelle que cette fiscalité franco-française, parce que là on parle simplement de cette taxation, mais ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est qu'il y a un rapport qui est passé un peu sous silence. Et le projet, vous savez c'est quoi? C'est de faire en sorte que la taxe solidarité, cette taxe qu'on appelle la taxe Chirac,
oui. Bon,
qui était louable, hein, c'était que le transport aérien participe au développement de médicaments et de la santé dans les pays en voie de développement. C'est tout à fait louable en soi et on ne s'oppose pas à cela. Et l'objectif, c'était de dire la France va donner l'exemple pour que les autres pays suivent. Et il y avait une trentaine de pays qui ont suivi. Ça n'a pas suivi. Et les autres pays concurrents, que je cite, que l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, n'ont pas mis en place cette taxe. C'est entre 1 et 40 euros par passager. En plus de ce qu'on vient de dire, entre 1 et 40 euros par passager. Eh bien, vous savez, ce qui est prévu, c'est que aujourd'hui, ça rapporte 217 millions d'euros pour ce programme de santé. 217 millions d'euros. C'est un plafond. Il y a des recettes supérieures du fait de la croissance du trafic aérien. Eh bien, elles vont être affectées à d'autres modes de transport. Donc, cette taxation qui était prévue pour apporter un soutien aux pays en voie de développement, qui est financée seulement par le transport aérien, et dans le monde, pratiquement, il y a quelques pays, mais la France est le principal contributeur, va servir finalement, au final, à d'autres modes de transport, et notamment à financer le ferré. Donc, c'est ça qu'on ne supporte pas. Le Brexit qui va arriver, vous savez, le Brexit, la clientèle anglaise, c'est la première clientèle étrangère en France. C'est une contribution économique majeure pour le pays. Eh bien, il y a une fiscalité franco-française qui va s'appliquer, et si on ne change rien, qui va rajouter encore 7 euros sur les aéroports français par rapport aux autres pays européens, 7 euros sur un billet d'avion en provenance d'Angleterre. Oui. Donc si vous cumulez...
C'est au Royaume-Uni que la taxe sur les billets d'avion est la plus élevée. Hein.
Oui, mais justement, si vous prenez toute cette taxation que je viens de rappeler, 1,50 euros à 18, puis la taxe solidarité, 1 euro à 40 euros, puis le Brexit, 7 euros supplémentaires, tout ça, on serait prêt à le considérer dans un cadre européen. Mais tout ce que je viens de vous dire, ça va être une punition pour la France. Une punition pour la France et donc une concurrence déloyale par rapport aux autres pays.
On a bien compris. La France se tire une balle dans le pied à chacune de ses taxes, Christian Bollier.
Non, mais je crois que le problème, c'est qu'on fait une politique de gribouille. On met une écotaxe à 1,50€ là, on augmente de 2 centimes la taxe sur les camionneurs. Personne n'y comprend plus rien. En fait, il faudrait une fois pour toutes se dire nous émettons du CO2, il faut absolument réduire ses émissions. Pour ce faire, nous allons forcer les gens à intégrer ces dommages dans leurs décisions à travers une taxe universelle sur la tonne de CO2. Donc prenons, aujourd'hui, les ménages payent 44 euros, excusez-moi, la tonne de CO2 sur leur essence à la pompe. Eh bien, faisons en sorte que toutes les émissions de CO2 en France fassent face au même prix de 44 euros la tonne de CO2, qui est sans doute un peu trop faible. Il faudrait que ça monte à 50 euros d'ici peu de temps. temps et 100 euros d'ici 2030. Mais ça, au moins, c'est clair, c'est transparent. Il n'y a plus de débat avec les lobbies pour savoir si c'est trop ou si c'est trop peu, s'il faut lutter avec des concurrents, la concurrence des lois étrangères. C'est simple, c'est transparent, c'est cohérent avec les objectifs de décarbonation de l'économie française d'ici 2050. Faisons ça au lieu de ça. Pourquoi on est en train toujours de débattre, de redébattre avec des lobbies, avec des intérêts privés qui veulent, qui nous disent systématiquement, bien entendu, que eux, ils ne peuvent rien faire contre le changement climatique parce qu'ils n'ont pas le choix et que l'avion, le camion sera toujours là pendant longtemps.
Je crois, Christian Gollet, que Jackie, qui nous attend depuis un petit moment au téléphone, à Nîmes, est-ce qu'il est toujours là, Jackie?
Oui, je suis là, je vous écoute avec attention, bien sûr. Bonsoir Yves.
Bonsoir. Alors, nous vous écoutons. Je crois que ce que vient de dire Christian Gollet correspond tout à fait à ce que vous vouliez nous dire.
Bah, tout à fait, tout à fait. Dans l'absolu, si on veut sauver la planète et si on veut sauver le climat, on n'a pas beaucoup de temps devant nous, hein. Mais en tout cas, l'avenir de le nôtre peut-être, mais de nos enfants, on est obligé de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est un impératif. Alors j'entends bien les lobbies qui sont là, qui se disputent le bout de gras pour savoir si ça va être pertinent pour l'économie, etc., etc. Mais là, on parle même plus de sauver une entreprise ou un secteur. Je comprends que les lobbies sont là pour, après tout, dire oui, c'est vrai, on a besoin de se développer. Mais ce développement est en train de détruire la biodiversité. Alors, hélas, en agissant dans l'intérêt de leurs finances, est-ce qu'ils n'ont pas une vision complètement biaisée de l'avenir de l'humanité? Et ne faudrait-il pas transformer la fiscalité en taxant les gaz à effet de serre et en subventionnant massivement la sobriété énergétique que nous avons besoin? Tous les Français comprennent bien, de toute façon, qu'on a des ressources qui sont limitées, que les émissions sont polluantes et que nous allons dans le mur. Voilà. Donc, c'est même plus un choix de société.
Bien
c'est
compris.
Un choix de survie.
Bien compris, Jackie, la sobriété, Thomas Join.
Oui, j'ai envie de dire, s'il y a bien un lobby, c'est un lobby aujourd'hui contre l'aérien. Parce que je crois que si on devait... Allez, une hypothèse.
Vous voyez qu'il y a un bashing,
aérien bashing. Une hypothèse, on supprime l'avion, complètement. Allez, on supprime, chiche. 98% de la situation n'est pas résolue. 98%. Donc je pense qu'aujourd'hui, au contraire, l'aérien a été très discret, c'est pas exprimé. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une question de finance, c'est une question, et moi je parle au nom des aéroports français, je vois très bien aujourd'hui l'enthousiasme qu'il peut y avoir de ces territoires qui étaient enclavés, de cette mobilité qui encore une fois permet toute une série de choses dans le quotidien des Français, et cette démocratisation est au contraire une chance aujourd'hui. Hier, c'était une critique sur le transport des riches, aujourd'hui, c'est parce que les gens prennent trop l'avion. Non, je pense que, encore une fois, clairement, cette taxation entre nous, on a été surpris, hein, on l'a appris la veille pour le lendemain. Il y a eu des assises de l'aérien pendant un an en 2018. Ces assises ont conclu où il y avait un marqueur, surtout pas de taxation franco-française. On est tout à fait d'accord pour une fiscalité écologique. Encore une fois, la taxe kérosène avait été évoquée au niveau européen. On ne s'est pas opposé. Et ce qu'on voit, du jour au lendemain, une taxation française. Clairement, la vraie raison de tout cela, c'est pas une incitation écologique. C'est le fait que dans le cadre de la loi LOM, qui a été en effet débattue...
Loi d'orientation des mobilités.
Mobilité, il y a 500 millions de financements à trouver, et qu'au dernier moment, on se posait la question comment les trouver. Et donc on a trouvé sur le transport aérien 180 millions à puiser. Donc je pense que clairement, pour parler sérieusement, il faut engager ce vrai débat de société, en effet, pour concilier la mobilité des régions avec une baisse de l'impact sur l'environnement. Et je pense que la conciliation, si on l'amène sérieusement, mais encore une fois à une échelle européenne, on peut y arriver. Voilà, c'est notre, en tout cas notre objectif.
Christian Gollet.
Oui, bon, il faut bien comprendre que le problème du changement climatique est une mauvaise nouvelle pour toutes les industries et pour toutes les activités qui sont intensives en consommation d'énergie fossile. Le transport aérien, le transport par camion sont deux activités qui sont en difficulté parce que pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'alternative. La solution à court terme, c'est de réduire les déplacements à travers une augmentation du prix. pays qui intègrent. Il s'agit absolument pas de supprimer telle ou telle ligne ou de supprimer l'ensemble du secteur. Il suffit simplement d'augmenter, pas massivement, d'augmenter un peu le prix du billet d'avion, un peu le prix du transport camion, qui fasse que, in fine, les utilisateurs intègrent dans leur choix de consommation les dommages qu'ils imposent à
autrui. Est-ce qu'il faut aller, par exemple, vers la taxe sur le kérosène qui est en débat à l'échelle européenne?
Cette taxe kérosène, encore une fois, nous ne sommes pas opposés. On sortait des assises.
À condition qu'elle soit européenne.
Voilà. Et débattue pour que ça soit loyal. Après, je rappelle juste un élément que personne ne débat. Il y a une augmentation du nombre de passagers. Depuis 15 ans en France, on n'a pratiquement pas augmenté en termes de mouvement. Donc, je veux dire, sérieusement, on est en train de parler de choses qui sont vraiment... qui frise la démagogie. Le nombre de mouvements d'avions, c'est ça qui finalement compte, c'est pas le nombre de passagers, n'a pratiquement pas augmenté, plus 0,3% en 15 ans en France. Et donc, clairement, il y a de plus en plus de monde dans les avions. Aujourd'hui, il y a en moyenne 115 personnes dans les avions. Il y en avait 70 il y a des années. On est dans une situation où le transport aérien a baissé son empreinte carbone, moins 25% si on ramène aux passagers depuis 15 ans. On est dans une situation où il y a plus de monde dans les avions et on vient nous dire on va rajouter des taxes sur un billet pour profiter à l'environnement. Non, je crois que, encore une fois, la taxation sur le kérosène au niveau européen, on n'y est pas opposé. Mais par contre, le marqueur pour nous, c'est une fiscalité franco-française qui, encore une fois, est un non-sens économique et un non-sens écologique.
Christian Gaulier, vous avez écrit aussi quelque part que le concept de transition énergétique heureuse était une utopie. Donc, oui, quoi qu'il en soit, ça fera des mécontents.
Oui, effectivement. In fine, il s'agit d'abandonner une source d'énergie peu coûteuse et facile à utiliser, qu'on appelle le pétrole ou le gaz, pour aller vers des sources d'énergie qui sont encore actuellement bien plus chères à produire, l'éolien, le photovoltaïque, et qui sont encore beaucoup plus difficiles à utiliser. Donc, in fine, c'est beaucoup plus complexe et plus coûteux, et ça va pas faire que des heureux, loin s'en faut. Il faut affronter cette réalité-là, et tant qu'on ne le fera pas, on aura un problème pour débattre du sujet à la fois dans au niveau des médias et au niveau politique.
Parce que quand Denise, par exemple, nous écrit là, à l'instant par mail qu'elle est du sud de l'Afrique, que toute sa famille vit là-bas, je ne suis pas contre les taxes, écrit-elle, mais si elles se multiplient, comment je fais pour me rendre en Afrique?
Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour cette personne, c'est incontestable.
Oui, et encore une fois, quand on connaît comment fonctionne en effet le secteur, il n'est pas du tout certain que ça se traduira toujours par des augmentations de tarifs, ça se traduira également par des choix de déployer telle ou telle liaison dans tel ou tel pays où les taxes sont moins élevées.
Thomas Join, président de l'Union des aéroports français. Christian Gaulier, économiste, directeur général de l'École d'économie de Toulouse. Je rappelle votre ouvrage paru au PUF, aux éditions du PUF en mai dernier. Le climat après la fin du mois. Merci à vous deux d'être venus dans ce téléphone sonne. Demain, nous parlerons des traités de libre-échange, le CETA et le Mercosur. Il est quasiment 20h sur France Inter. Merci à Philippe Duclos et Grégory Wallon qui étaient à la technique. Le journal tout de suite, c'est avec Antoine Geoffin. Bonsoir.